20h-21h, Allo l'Imam, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Bonjour à tous mes amis, Maître Serhan est ravi de vous retrouver en cette période de Ramadan qui avance tout doucement, gentiment, tranquillement. Alors j'anticipe légèrement, mais le cap des 15 jours n'est pas loin d'être atteint. Mais j'attendrai quand même la fin du Ramadan, Inch'Allah, avant de dire « Oh là, mais c'était simple cette année !» Vous savez ça, tu l'entends tous les ans. Le type, il n'arrête pas de te saouler durant le Ramadan tous les jours. Il n'a pas arrêté de se plaindre et à la fin, il te dit « Oh là, le Ramadan, il est déjà terminé !» Déjà terminé ? Ah bon ? Mais tu veux que je te rappelle toutes les fois où tu t'es plaint, les gens ont la mémoire courte. Mais avant d'évoquer les questions posées hier par vos auditeurs, mon cher Philippe, j'aimerais parler de cette rencontre en direct entre l'imam Abdelali Mamoun et cher Abdelkader Zaoui, manifestement des amis de 30 ans, comme dirait l'autre.
Plus, il y a un moment, je me suis dit,
mon cher Philippe, que les deux imams ont oublié qu'ils étaient à la radio. Et le Philippe Robichon, que je connais, n'avait plus la maîtrise du plateau.
Ah non.
Et des « Alors, Rouya, comment ça va ?»« L'Aïhafdek, comment ça va ?» Et la famille, ça faisait longtemps. « Oh, ouais, les gars, c'est bon, ça suffit avec Salam Alek. On peut reprendre le cours de l'émission. » C'est vrai. Et répondre aux questions des auditeurs. Il faut toujours se méfier des rencontres avec les anciennes connaissances. Oh, ça m'est arrivé il y a à peu près un mois et demi. Je suis là, tranquille, avec Madame Serhan. On flânait. En fait, on faisait des courses. Hein. Et je vois un type arriver vers moi. « Mourad, oui, tu me reconnais pas ?»« Non. » »« C'est Sylvain. »« Ah, Sylvain, ça faisait longtemps. Je suis content de te voir. » Sylvain, c'est un pote que j'ai pas vu depuis près de 25 ans au moins. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? T'es marié ? T'as des enfants ? Alors, je lui dis oui, je suis marié. Je lui présente mon épouse qui est à côté. Ah, carrément, t'es marié. Quand je pense qu'à l'époque... Oh, alors là, t'étais quand même sorti avec... Et avec...
Devant madame, en plus.
Alors que toi... Ben oui, alors que toi, naïf, tu crois que ta femme, elle a pas fait attention. Grave erreur ! Car une fois dans la voiture, tu sens que l'ambiance n'est plus la même. Et immédiatement, t'entends... c'est qui les filles dont il parlait ? Alors t'es sorti avec...
Laetitia. Ouais, Laetitia, tu te rappelles Laetitia Messeran ?
Ouais, complètement, mais je savais que j'allais avoir droit à ces questions. Oui, mais sauf que, ma chérie, on n'était pas mariés. Ce qui est bizarre, en fait, avec les femmes, c'est qu'elles finissent par t'en vouloir pour les anciennes relations, alors que t'étais même pas marié, frère. Tu m'expliques la logique ? Non, tu peux pas. Il n'y a pas de logique avec les femmes. En fait, les femmes sont parfois, voire souvent... Même toujours des casses, bip. Mais tout ça, c'est rien. À côté du problème que devra gérer Imad, mon cher Philippe, cet auditeur qui vous a appelé hier pour dire qu'il était fâché avec son père et qui demandait conseil. En tout cas, à l'écouter, il n'avait pas spécialement envie de faire le premier pas envers son père. Et la réponse apportée par Abdelali Mamoun dans sa grande sagesse est la seule qui pouvait être apportée. Frère, on ne négocie pas avec son père, encore moins avec sa mère. Et dans l'hypothèse même où ton père... aurait tort, eh bien il a raison. Prends vite conscience de ça, mon cher Imad, rectifie le tir au plus vite avant que ton père ne soit plus. Voilà, mon cher Philippe, Maître Serhan termine sur une note un peu moins souriante. Sahaf tolkom et à demain, Inch'Allah.
Maître Serhan, qu'on retrouvera demain avec une rencontre au sommet. Vous ne voyez pas, mais Maître Serhan, vous avez avec vous sur ce plateau une de vos idoles qui est venue exprès.
Alors je dis c'est vrai, je dis pas que c'est vrai que c'est une de mes idoles, mais voilà, je suis ravi de l'avoir enfin en chair en os. Vous en avez tellement parlé, mon cher Philippe, tellement.
Enchanté.
Voilà, et petit Sembel Manadi qui sera là avec nous, master kinésithérapeute.
Et bien son père, justement, est décédé. Il est parti.
Allah yarhamou.
Voilà, donc Allah yarhamou, Allah yassalé. Inch'Allah, moi, ce que j'invite le frère, c'est faire beaucoup de doha pour son père, Inch'Allah, et tout ira bien. Et surtout, d'essayer de faire beaucoup d'efforts avec le reste de la famille.
Il est parti quand, son père ?
Il est décédé parce que là, lui, il a embrouillé avec qui ? Il n'est pas embrouillé avec son père, embrouillé avec sa mère et ses frères.
Ah oui, parce qu'hier, on n'avait pas compris que le père n'était pas là. Ah oui, qu'il était mort, le père. On n'a pas compris ça hier, Abdelali. Ouais.
Il est décédé, son père.
Ah, parce que vous l'avez eu entre-temps, alors ?
Oui, il m'a appelé au téléphone.
Ah oui, vous n'avez pas dû vous coucher tôt, alors.
C'est ce qu'on avait convenu, puisque je lui avais laissé mon numéro après.
Bien. Comme tous les soirs, Hadith qu'on ne connaît pas, qu'on a oublié, Imam Abdelali.
Oui, même qu'on n'a jamais entendu, parce que là, c'est plus qu'un hadith, puisqu'il s'agit d'un verset du Coran avec une traduction ou une interprétation prophétique. Donc, je vais lire le verset.
Il y a des versets du Coran qu'on ne connaît pas ?
Non, on connaît les versets, mais on ne connaît pas qu'il y a des hadiths, des paroles du prophète, qui viennent expliciter le sens d'un mot ambigu dans le verset du Coran. Et c'est le verset, justement, 112 de la sourate Tawbah, la sourate 9 du Coran, où Dieu dit dans le Coran, je vais lire le verset, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Donc ce verset nous dit, Dieu parle, fait une description d'un certain nombre de personnages. Il dit les repentants, les adorateurs, ceux qui proclament la louange, les sa'ihoun, et là il ne l'a pas traduit, hein, ceux qui s'inclinent, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, et ceux qui respectent les limites d'Allah et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. C'est la description que fait Dieu des croyants. Il dit que voilà, un croyant, ce sont ceux qui ont toutes ces descriptions-là. Mais parmi eux, il y a un vocabulaire, c'est « as-sa'ihoun ». Donc on a donc posé la question au prophète, que veut dire le mot « sa'ihoun » en arabe? « Sa'ih », ça veut dire quelqu'un qui voyage, qui se déplace, qui est en élévation. Hein. Eh bien, le prophète a dit, Sa'ihoun veut dire les jeûneurs, tout simplement. Ceux qui jeûnent le mois du Ramadan, ceux qui jeûnent pendant l'année, Sa'ihoun humus sa'imun, comme nous l'a rapporté Abu Huraira selon le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et selon aussi Abdullah ibn Mas'ud aussi, qui disait, Sa'ihoun humus sa'imun, hein, rapporté par Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, le tafsir c'est-à-dire l'exégèse de Tabari qui est connu, hein, le plus grand exégète du monde musulman que l'histoire a connu, c'est le grand imam Tabari avec son exégèse. Il a aussi une énorme encyclopédie sur l'histoire, on dit aussi le Tarikh al-Tabari, l'histoire de Tabari, le grand livre historique de Tabari, et qui nous dit que donc as-sa'ihun ici veut dire as-sa'imun. Et donc qu'est-ce que nous dit ce verset? Il nous dit à la fin que ceux qui sont décrits par toutes ces qualités que l'on vient d'évoquer, eh bien, font l'objet d'une bonne annonce venant d'Allah Azza wa Jal. Il dit « Wabashir al-Mu'minin » et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Et que ce sont, déjà, il témoigne Dieu que ce sont ceux-là les croyants, et qu'il leur annonce en plus la bonne nouvelle. Et bien sûr, la bonne nouvelle, c'est la récompense divine, l'agrément d'Allah, la satisfaction divine, et bien sûr, le paradis éternel. Et à eux, à tous ses proches aussi, inshallah ta'ala. Donc, soyez dans cet ensemble de ces préceptes au rendez-vous, de manière à ce qu'Allah Azza wa Jal vous annonce à vous aussi la bonne nouvelle d'aller au paradis et d'être satisfait de vous. Hada, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Et voilà, en espérant que nous puissions nous aussi faire l'objet d'une bonne annonce venant d'Allah Azza wa Jal et un témoignage que nous sommes aussi des croyants.
Vous connaissez le principe de l'émission, vous posez toutes vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, et on prendra vos appels dans un instant. Imam Abdelali, c'est le 10e jour aujourd'hui.
Oui, effectivement, la première décade, nous sommes donc à la fin de cette première décade, il y a un hadith du prophète qui est un peu faible, qui dit que le mois du Ramadan est divisé en trois parties, et le prophète dit « Awwaluhu rahma », la première décade est miséricorde, وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً, la deuxième décade est pardon, وَأَخِرُهُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ, et la troisième partie, et la dernière, est affranchissement de l'enfer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi l'affranchissement n'est pas au début? Pourquoi la miséricorde n'est pas, elle, au début ou à la fin? Voilà. Eh bien, tout simplement parce que Allah Azza wa Jal a voulu donc combler de sa miséricorde, de la rahma, ceux qui étaient déjà engagés dans cet élan de spiritualité et de jeûne pendant tout au long de l'année, et qui, dès le début du Ramadan, sont imprégnés par cette miséricorde divine. Alors que ceux qui étaient moins, plutôt récalcitrants, plutôt insouciants, plutôt, on va dire, moins assidus dans leur pratique, eh bien, ils ont besoin, eux, d'attendre une deuxième décade pour atteindre, justement, ce pardon d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui étaient carrément éloignés, qui étaient voués à l'enfer, qui était loin d'Allah Azza wa Jal, loin de la religion, loin de tout ce que Dieu attendait d'eux, eh bien, Allah Azza wa Jal leur accorde pour cette troisième décade d'être affranchis de l'enfer. Voilà pourquoi il faut effectivement du temps pour que les gens reviennent petit à petit. Et il faut arrêter d'imaginer que du jour au lendemain, vous pouvez passer de démon à ange. Ce n'est pas possible. L'évolution spirituelle, l'éducation spirituelle, c'est comme l'éducation physique. On ne fait pas du jour au lendemain le marathon New York, Philippe, alors qu'on pèse 100 kilos ou 150 kilos. On est d'accord. Il faut petit à petit s'entraîner.
On ne le fait pas plus vite, même si on pèse 70 kilos. Hein.
Oui, voilà, pareil. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout un entraînement.
Il faut un entraînement, bien sûr.
Le corps doit être éduqué, le cœur et l'âme doivent s'éduquer comme le corps. Hein, et toutes les choses doivent être progressives. Arrêtons de dire, moi je prierai quand je serai prête. Tu ne seras jamais prête, puisque la prière sert à être prêt. Hein, je dis, moi j'irai au hajj quand je serai prêt. Oui, mais le hajj, c'est justement une préparation. C'est une manière d'évoluer. Ce n'est pas une finalité, une fin en soi. C'est un moyen d'atteindre les objectifs et d'affermir son cœur, de cheminer spirituellement et d'être dans cet élan qui vous permettent d'atteindre notre Créateur, sa satisfaction et son agrément. Inch'Allah ta'ala.
Bien, alors Maëva Ducré nous a rejoint. Vous aviez une question à poser à l'imam.
Oui, quelle est la différence entre pardon et miséricorde?
Alors, la miséricorde est le fait qu'Allah Azza comble de ses bienfaits. Comble de son agrément, de sa satisfaction. Il dit que je suis satisfait de toi. Il montre de l'affection. Il comble de ses bienfaits dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il leur accorde, etc. Le pardon, c'est spécifiquement pour pardonner. On a commis des fautes, on a été négligent. Là, la deuxième décade, Dieu pardonne. Là, il est vraiment dans le pardon. Au centre au marfira, yarfiru dhunub. C'est-à-dire, d'où vient du mot marfira qui vient de refran dhunub, qui veut dire le fait de pardonner les fautes, les erreurs, les négligences que l'on a pu commettre avant le ramadan. Et à la fin, être comme une nar, c'est ceux qui sont affranchis de l'enfer, qui étaient voués à l'enfer, qui étaient loin d'Allah Azza wa Jal, et par exemple, qui étaient des criminels, des gens qui ont commis beaucoup de mal, et qui, le ramadan, leur a fait carrément retourner leur veste est complètement changée d'attitude et de comportement. Et Dieu a décidé pour eux, parce qu'ils se sont repentis dans ce bas monde, de leur pardonner et de les affranchir de l'enfer, malgré l'immensité et la gravité de leur faute. Et c'est ce que je voudrais rappeler à tous nos éditeurs et auditrices, c'est qu'il n'y a pas de faute grave aux yeux d'Allah. Dieu est capable de tout pardonner. Ce qui compte, c'est de demander pardon et de se repentir et de corriger son comportement. À partir du moment où il y a de la vie, il y a de l'espoir et il y a du repentir et il y a du pardon d'Allah Azza wa
Jalla. Imam Abdelali, on va à Grenoble et Salima nous appelle au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan Salima.
Oui, salam alaikum, bon ramadan à vous aussi. On est très heureux de retrouver la voix de l'imam j'arrive jamais à répondre.
Abdelali Mamoun.
Voilà, on est très 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 heureux de vous retrouver. Et en tout cas, je voulais aussi vous dire que depuis que vous êtes à la radio Beurre, je ne sais plus combien d'années ça fait, vous avez beaucoup apporté par rapport à la religion, par rapport à la pratique de l'islam. Ça, moi, ça m'a beaucoup aidé. Des gens de mon entourage, ça a beaucoup justement levé les interdits. Nous, on a été beaucoup éduqués comme ça. Ça, c'est interdit dans l'islam. Ça, c'est interdit. Et vous, quand vous êtes venu à la radio, vous êtes un des premiers imams qui a été à la radio, hein. Dans une radio publique, ben ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et depuis, je pratique, ça va faire 7 ans, la prière. Et je suis très heureuse en tout cas.
Eh ben moi aussi, je suis très heureux pour vous, ma sœur. Et je vous souhaite, Inch'Allah, que vous puissiez continuer dans cet élan spirituel. Et puis, bien sûr, à toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent et qui, voilà, elles aussi.
Vous dites, si on ne commence pas la prière, on ne sera jamais prêt.
Non, il faut commencer. Même un peu. Il y a des gens qui me disent on ne peut pas faire, tant qu'on ne fait pas bien, on ne doit pas faire. C'est faux. Même faire un peu, c'est mieux que rien. Ouais. Fais une par jour, fais une par semaine, c'est mieux que rien. Ouais. Dis, ouais, non, moi, je n'ai jamais mis les pieds dans une mosquée, donc je ne dois pas y mettre. Pour une première fois, vas-y.
Et le matin, je ne me levais pas pour le fajr. Et j'écoute un imam aussi sur YouTube qui parle de la religion et de après et tout ça. Et je peux vous dire que maintenant, je me lève et je mets mon réveil.
Mashallah alaikum. Bon courage à vous.
Allah yassal alaikum. Quelques mois, voilà. Amin. Par contre, je voulais vous poser une question imam. C'est que je suis mariée, mon mari ne fait pas la prière. Et ça, j'aimerais qu'il fasse la prière. Donc, je fais toujours des douaettes. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'amener à faire la prière ou il me dit, bah, comme vous dites, comme certaines personnes disent, ah, quand je serai prêt, pour le moment, je suis pas prêt. Donc, il fait le ramadan, mais il fait pas la prière.
Alors, qu'est-ce que vous conseillez, Mme Abdelali?
Continue à jeûner le ramadan. Lui, il continue à jeûner le ramadan. Et vous continuez à faire des du'as pour lui. Faites des invocations dans vos prosternations. Vous dites, Allahumma hdihi ya Rab. Oh mon Dieu, guide-le dans le droit chemin. Guide mon mari. Voilà, je voudrais qu'il aille au paradis avec moi. Mon Dieu, fais en sorte qu'il soit lui aussi dans cet élan spirituel. Mais surtout, pas de scène de ménage à cause de ça. Il ne faut pas que la religion soit une source de zizanie dans la maison. La religion doit rapprocher, ne doit pas éloigner, ne doit pas provoquer des discordes. Au contraire, ça doit être une source de rapprochement et d'amour. Donc, laissez-le cheminer à son rythme. Et quand l'heure viendra, il la fera, inshallah ta'ala, grâce à vos invocations et grâce à ses efforts qu'il aura accomplis, inshallah.
Merci Salima pour votre question. Alors vous allez pouvoir poser vos questions à l'imam Abdelali en direct au 01 53 48 3000. On parlera un petit peu de posture, les bonnes postures du ramadan avec notre masseur kinésithérapeute qui est là ce soir, Ibtissem Belmadani. Et puis je rappelle que, et c'est la seule radio qui le fait en France, l'imam Abdelali Mamoun tout à l'heure à 21h29 si vous habitez Paris, eh bien fera l'Aden en direct 21h29. Le rendez-vous est pris, on revient avec vos appels dans un instant.
Beurre FM, 20h-21h, Allo l'Imam, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun. 20h-21h, Allo l'Imam, avec Adil Farkan et Ismaël Mounir sur Beurre FM.
Voilà, et puis l'imam Abdelali Mamoun est là ce soir, vous l'interrogez, posez vos questions au 01 53 48 3000. Assistez ce soir d'Ibtissem Belmadani, qui est masseur kinésithérapeute.
Tu n'es pas masseuse ?
Les masseur. Deux sont possibles. Les deux
ouais.
sont possibles.
Ouais, mais attends, c'est quand même une femme, donc c'est masseuse. Donc.
Non, mais moi je dis ma sœur.
Ma sœur, d'accord.
Je dis mon frère, ma sœur.
Parce que c'est ça, c'est comme professeur.
Voilà, quel jeu de mots magnifique.
Non, tu sais, je suis au top. Tu vois. Là, à 20h25, franchement, j'ai dormi une heure, je suis au top. Là, bien. Et en plus, il y a Maëva, donc ça me donne des
hey, hey, hey. Et oui, je dis hey, 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 même devant l'imam. Salam alaikum, wa rahmatullah.
L'imam, il dit pas hey. Hein.
On dit pas hey s'il n'y a pas l'imam ou il y a l'imam.
Ça dépendait qu'elle vous, oui.
Alhamdoulilah, j'espère bien.
Alhamdoulilah.
On a d'abord, on est frères d'abord.
On va à Saint-Étienne, Rachid est avec nous. Bienvenue Rachid, bonsoir et bon ramadan.
Et bonsoir, salam alaikum.
Wa alaikum salam, marhaban ya Rachid.
Bon ramadan, ramadan mubarak, kul amam kubab khir.
Ahlan, Allah ybarak fik, akhouya al-karim. Ramadan mubarak karim, Allah yhafdak.
Saha ya hamadik. J'aurais juste une question à vous poser, Cheikh Imam.
Oui, alors on ne t'entend pas bien, je ne sais pas pourquoi.
Il faut enlever le haut-parleur si vous l'avez, Rachid.
Non, je n'ai pas le haut-parleur.
D'accord, vas-y, c'est bon. En tout cas, c'est mieux. Allez, on y va.
D'accord. Donc, je vous appelle parce qu'il y a deux jours, vous avez fait l'émission et vous avez posé une question comme quoi les cinq piliers de l'islam ne sont pas obligatoires.
Ah non, je n'ai pas dit ça.
Ah si.
Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit.
C'est pas parce que
c'est un pilier que c'est forcément obligatoire. C'est ça que je veux dire. Et que la définition de l'obligatoire, ce n'est pas lié au fait que ça soit un pilier ou non. Mais tous les cinq piliers sont obligatoires, bien sûr. Bien sûr que c'est obligatoire.
Mais ça
ne pose même pas. Mais je pense que tu n'as pas suivi au début.
C'était pas ça le raisonnement.
Le raisonnement, c'était d'expliquer qu'est-ce que veut dire le mot obligatoire. Et Philippe a dit c'est un pilier. J'ai dit non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un pilier. Mais effectivement, tous les piliers sont obligatoires. Mais tous les obligatoires ne sont pas forcément des piliers.
Ah
on est
oui,
d'accord.
Bien évidemment.
Bon, oui, voilà. Mais tous les piliers sont obligatoires. Là, on est d'accord.
Voilà.
Si c'est ça ta question.
Obligatoire. Donc c'est pour ça que moi, quand on
l'a. Oui, non, mais parce que tu n'avais pas compris le raisonnement, c'était parce qu'on voulait définir qu'est-ce que ça veut dire le mot obligatoire. Et comme Philippe a dit, parce que c'est un pilier, on dit que c'est obligatoire. J'ai dit non, pas forcément. Il y a des choses qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas piliers.
D'accord. Non, parce que là, honnêtement, moi,
écoute-moi jusqu'au bout. Écoute-moi la phrase. Je répète. Écoute bien le raisonnement. Tous les piliers sont obligatoires. Tu as compris ça?
Oui.
Bon, tous les obligatoires ne sont pas des piliers. On est d'accord?
Ouais.
Oui. Oui ou non?
Oui, j'ai compris.
Bon, il y a des choses qui sont obligatoires et c'est pas des piliers.
Exactement.
Bon, voilà, c'est tout. C'est ça le résumé de tout ce qu'on a dit l'autre jour, c'était ça. Et si tu as compris autre chose, je m'en excuse. J'ai du mal m'exprimer. C'est de ma faute.
D'accord.
C'est de ma faute. Allah ybarak fik akhouya. Yesalmak akhouya.
Merci.
Merci. Rachid pour cette demande de précision. Salima au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue. Bon ramadan. Alors Salima, vous êtes à l'antenne.
Oui, bonjour.
Bonjour Salima.
Bonjour, salam alaikum.
Oui, bonjour. Je vais éteindre ma haut-parleur. Je suis désolée, j'ai une petite voix là, j'ai mal à la gorge.
Vous de même.
Et puis surtout à la présence d'Abdel Moumen, moi je ne le connaissais pas avant, mais ça va faire 2 ans depuis que je découvre ses émissions. Mmh. Mais il est extraordinaire.
Merci ma sœur,
il y a des choses.
Mais c'est vrai que vous êtes la énième personne qui m'appelle Abdel Moumen.
Je sais pas pourquoi.
Et pourtant un des noms de Dieu c'est Al Moumen, effectivement. Al Moumen ou Al Muhaymin ou Al Aziz ou Jabbar, ça existe. Il y a des gens qui s'appellent Abdel Moumen. Mais moi mon nom c'est Abdel Ali, un des noms de Dieu Al Ali, et mon nom de famille c'est Ma'moun. Alors, c'est pour ça qu'on a tendance à fusionner les deux, c'est Abdel Abdel Moumen à la fin. Mais c'est pas grave. Allez-y ma sœur, posez votre question.
Voilà, je voulais juste, c'est pas une question, mais c'est pour m'informer. Est-ce que vous ferez pas des halakats pendant les mosquées, où on peut vous rencontrer? Surtout ça qui m'intéresse en fait.
Ma sœur, je voraisvous rappeler une chose, que Abdel Ali Ma'moun, ce n'est pas le représentant de Dieu sur terre, et il n'est pas le seul à avoir la vérité absolue. Et loin de là. Il se trompe souvent. Donc s'il vous plaît, je ne souhaite pas qu'un musulman soit dans cet esprit de culte du personnage. Le culte de la personnalité, c'est pas très bon. Où que vous soyez, il y a une mosquée, il y a un imam, et l'imam, il doit être très bon. S'il est là, c'est parce qu'il est compétent pour assumer. Vous habitez où?
Par moment, on a des préférences.
Inch'Allah, opéreux.
Alors, pour répondre à la question de Salima, Imam Adela dit, est-ce que vous êtes pendant le mois du Ramadan? Est-ce que vous allez assurer?
Vendredi, je suis à Al-Jumu'ah à Chatnem à l'abri.
Voilà.
Le vendredi d'après, je serai à la mosquée d'Anthony. J'ai une conférence, je ne sais plus, il faut que je regarde mon agenda, je dois avoir des bricoles, mais le problème, c'est comme je suis très occupé avec la radio.
Par rapport aux conférences surtout. Voilà,
alors, pendant le Ramadan, ma sœur, pendant le Ramadan, écoutez-moi la radio, je suis là 1h30 avec vous. De 20h à 21h30. Jusqu'à l'Aden. C'est moi qui le fais en direct. À 21h30. Donc c'est bien, il n'y a pas besoin de conférence. Je suis en conférence là avec vous pendant encore une heure, là, Inch'Allah.
Inch'Allah. Mais si on a besoin, par exemple, parce que moi j'ai pas mal d'amis, on se dit peut-être que s'il y a une présence de vous dans une salle où, je sais pas, où vous pouvez vous représenter, ça nous intéresse, quoi.
Bon, en tout cas, l'imam Salima a répondu à la question sur sa présence dans les quelques jours. Vous avez la possibilité de l'appeler sur son téléphone après l'émission si vous voulez évoquer des sujets qui ne sont pas et que vous ne souhaitez pas évoquer à l'antenne. Rappelez votre numéro, Imam Abdelali.
C'est vrai que la technologie est très utile. 06 29 25 35 00. Je répète, le 06. Vous m'appelez, Inch'Allah, en antenne, et puis j'essaie de répondre à vos questions.
On voulait profiter avec les gamins, on va dire.
D'accord, Inch'Allah. Écoutez, si vous avez une association quelque part et que vous avez des locaux pour accueillir quelqu'un et organiser ce genre de manifestation que vous dites là, conférence et autres, vous m'appelez, on programme ça et il n'y a pas de souci, Inch'Allah.
Très bien.
Alors, sinon, vous venez manger un soir pendant le Ramadan.
Vous comprenez très bien ce que...
Après le Ramadan, frère. On a le mois de juin, c'est un creux pendant le mois de juin, Inch'Allah.
Eh bien, c'est excellent. Merci beaucoup et
haftar kom.
Allez, d'autres appels dans un instant au 01 53 48 3000.
Vivez un Ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Beurre FM, les grandes signatures du Ramadan. Ramadan et solidarité avec Lazare Drajan et le professeur Dourman.
Le mois de Ramadan, c'est un mois où on parle beaucoup de solidarité. On en parle pendant 30 jours avec Lazare Drajan. Bonsoir Lazare.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes directeur de Muslim Hands France et avec nous, le professeur Omar Dourman. Bonsoir professeur.
Bonsoir à vous.
Chef du département à la faculté des sciences islamiques de Paris. Nous allons parler de la douceur de la foi.
Oui, parce que y a une certaine douceur dans la foi que certains vont la goûter, Inch'Allah, on aimerait bien, mais d'autres, malheureusement, non. Comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, donc une parole prophétique authentique rapportée par Al-Bukhari, le prophète dit 3 sentiments, si la personne musulmane peut les avoir, goûtera à la saveur de la foi. Donc ces 3, lorsque n'aime, dit le prophète, Dieu et son prophète, plus que tous les êtres humains, donc aimer Allah et son prophète, au-delà de tous les humains, quand on aime quelqu'un uniquement à cause de Dieu, et enfin le fait de détester tout ce qui amène à l'enfer. Hein. Ces trois composantes, donc ces trois font que la personne peut goûter à la saveur de la foi. Donc forcément, il y a une foi sans saveur et une foi avec saveur. Donc il y a deux niveaux de la foi. Donc la première qualité, c'est d'aimer Dieu et son prophète au-delà de tout. Aimer Dieu, c'est comment? Aimer les ordres de Dieu et aimer ne pas accomplir les mauvaises actions que Dieu nous interdit.
Tout à fait.
Quand on aime quelqu'un, on l'écoute. Même des fois qu'on a du mal à vouloir ou accepter les directives, mais parce qu'on l'aime. On aime nos enfants, on aime nos femmes, donc on écoute, on dit c'est pas grave. Donc aimer Dieu, c'est aimer sa parole, aimer c'est le Coran, aimer le prophète, l'écouter, le suivre, aimer sa parole prophétique, donc le suivre également. Aimer également la personne du prophète. Ce n'est pas suffisant d'aimer les directives du prophète, mais aimer également le prophète lui-même. Donc c'est bien, des fois, on prétend aimer Dieu et son prophète. Mais cet amour, il est caché, il est privé. Donc dans le domaine de la foi, également, le prophète veut des preuves. Parce que non, des fois, on demande des arguments et des preuves dans le domaine juridique. Dans le domaine dogmatique aussi, il faut avoir des preuves. C'est-à-dire, on se dit, on aime Dieu et on aime le prophète. Quelles sont les preuves? Le prophète nous dit... aimer sans quelqu'un, hein, que pour Dieu. Donc ça va c'est-à-dire pour voir mon amour de Dieu et de son prophète, je regarde combien j'aime mon frère. Si je l'aime 5%, donc forcément j'aime Dieu que 5%. Si j'aime mon frère dans l'humanité plus que 5%, 100%, donc j'aime Dieu et son prophète 100%. Donc aimer, c'est un sentiment noble, extraordinaire. Hein, il y a plusieurs, je ne sais pas si on aura l'occasion plus tard de parler des niveaux de l'amour. Il y a plusieurs niveaux d'amour. Il y a de l'amour qui est correct et important. Le plus important, c'est aimer Dieu et son prophète et aimer l'humanité.
Je rajoute juste quelque chose aussi qui est très important. Aimer al-fuqara al-masakin, donc aimer aussi les nécessiteux. Le prophète alayhi salam nous a enseigné cela aussi qui est très important. Allahumma hasharna ma'al fuqara al-masakin.
Ouais. Je vous rappelle l'opération Famille Beurre FM, parrainer 500 orphelins. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur le site beurrefm.net. À demain.
C'était Ramadan et Solidarité avec Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur beurrefm.net. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. Beurre FM, 20h-21h, Allo l'Imam, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun.
Voilà, si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, c'est le 01-53-48-3000 que vous composez. Rabia est avec nous, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Rabia.
Allô ?
Rabia, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Salam alaikum.
À vous aussi.
Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'ai une question, cher. En fait, j'ai ma fille qui a 10 ans. Elle a eu ses règles et je ne sais pas ce qu'elle va faire tout le mois de Ramadan ou bien comment faire.
Eh bien, écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, elle est pubère. C'est devenue une femme maintenant. Eh bien, essayez de voir avec elle si elle peut jeûner.
Elle est déjeuner les week-ends, les mercredis, mais les jours de la semaine...
Ah bah, tous ces jours-là maintenant, à part dorénavant, tous ces jours qu'elle fait, si elle ne les fait pas, il faudra les rattraper en hiver.
D'accord, ok. Voilà.
Et si elle peut jeûner, même si elle peut jeûner pendant l'école, etc., et pourquoi pas...
Elle n'a pas réussi.
Ah oui, voilà, j'ai dit bien, si elle y arrive, tant mieux, si elle n'y arrive pas, elle rattrapera une journée ultérieure. Mais normalement, dorénavant, il faut la lever à Sahur. Il faut qu'elle commence et qu'elle entame la journée, et dans la journée, si ça ne va pas, elle casse.
D'accord, parce qu'avec le sport, les activités...
Ouais, non, mais elle casse au moment où ça ne va pas. Quand ça ne va pas, elle casse. Mais elle doit se lever le matin, donc elle doit entamer la journée.
D'accord.
De jeûne, Inch'Allah, d'accord.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, Ravia, pour votre appel. Mélissandre est avec nous. Mélissandre est à Saint-Étienne. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Mélissandre.
C'est original, ça, comme prénom. La première fois que j'entends Mélissandre.
Mélissandre.
Cassandre, Mélissa. Donc là, il y a un mélange entre Mélissa et
voilà.
Cassandre.
Et Dynamique, qui est là, nous dit que c'était un personnage de Game of Thrones.
Culture, culture.
Got. Alors, Mélissandre.
Ouais, vidéo, tu veux dire.
Bon, en tout... Ah, voilà, vous êtes là. Alors, on vous écoute, Mélissandre.
Salam alaikum, bonsoir.
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 Et bon ramadan.
De même.
Ramadan Moubarak. Oui. Bonsoir.
Alors, moi j'ai une question simple, c'est par rapport aux ablutions.
Oui.
En fait, je passe pas les cinq doigts de la main de devant jusqu'à l'arrière, je mets les deux, mon index et mon pouce. Et mon mari me dit oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Alors,
il faut mettre les cinq doigts, etc.
Les cinq doigts où ça? J'ai pas compris.
Quand vous avez mis un peu d'eau sur vos mains.
Ouais.
Vous passez, vous devez passer de devant, vous devez passer sur vos cheveux, quoi.
Voilà. Là, attendez, vous parlez là, d'essuyer les cheveux
non,
ou...
Non, le système le fait.
Sur ma tête quand j'ai le brushing, en fait.
Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'elle parle d'essuyer les cheveux.
Ah, c'est pas les mains.
C'est pas les mains. Elle parle des cheveux. Ouais, je m'en doutais bien. Alors, pour ce qui est des cheveux, le minimum à faire, c'est d'essuyer légèrement au-dessus du front. Le minimum. Le prophète Aslam a essuyé sur le devant de la tête, que le devant de la tête, et s'est lavé les pieds directement. Après avoir essuyé les oreilles, lavé les oreilles, et s'est lavé les pieds. D'accord. Donc, votre mari se trompe quand il était aussi intransigeant avec vous. Il faut lui dire qu'il existe beaucoup d'avis, que l'islam est beaucoup plus souple que ça, et qu'il n'aurait pas besoin d'en faire trop. S'il a envie de faire parfaitement... d'essuyer les cheveux en passant au début de la tête jusque derrière les oreilles, puis après il fait l'aller-retour comme ça de la nuque vers la nuque jusqu'à donc jusqu'au front, c'est très bien, mais il peut pas l'imposer aux autres puisqu'il y a d'autres écoles qui disent autre chose. D'accord.
D'accord.
Le prophète a essuyé légèrement sur le début de son front, sur le haut de son front. Nasiya, c'est le haut du front. Et il a donc après ensuite essuyé sur ses khoufain, c'est-à-dire les sortes de chaussettes en cuir qu'il portait.
D'accord. Okay.
Sans laver les pieds.
Ma question,
sans laver les pieds. Il a essuyé sur les khoufain.
Merci, Mélissandre.
Un autre sujet.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, bon ramadan.
Bon appétit.
Ouria, avec nous, 01 53 48 3000. Bienvenue, bonsoir et bon ramadan. Alors, Ouria. Alors, si Ouria n'est pas là, on accueille Ouria Anissa.
Je la connais, Ouria de Cray en plus.
Anissa.
Allô, oui, bonjour.
Bienvenue, salam bonsoir, bon ramadan.
Salam wa rahmatullahi.
Merci, Hassan Ramdankoum. En fait, moi, j'aurais une question concernant la zakat. Donc, j'ai toujours sorti ma zakat sur l'argent économisé, mis de côté en tous les cas, que ce soit pour mon mari et moi ou pour mes enfants. Puisqu'ils ont des comptes bloqués, en fait. Donc, on sort la zakat chaque année. Mais, en fait, au moment de mon mariage, j'ai reçu des bijoux. Et je n'ai jamais sorti la zakat sur ces bijoux-là.
Alors, ces bijoux, vous les portez ou pas?
Non, je ne les mets pas, justement.
Alors, votre intention de ces bijoux-là, c'est de les porter ou est-ce que c'est de les considérer comme un filet financier de sécurité? En cas de problème.
C'est plus sentimental puisque c'est, vous savez, les ceintures, qu'on m'a offert. C'est mes parents qui m'ont fait ça.
Alors, portez-les de temps en temps, comme ça vous n'aurez pas de zakat
à sortir.
Hein. Oui. Et, par contre, si vous ne les portez pas du tout, vous devrez vous acquitter de la zakat, c'est-à-dire de 2,5% de leur valeur. Donc, portez-les au moins une fois par an, au moins l'Aïd, je ne sais pas, moi, le Mounasabat, un mariage.
Mais du coup, depuis 14 ans que je suis mariée, je ne les ai pas spécialement portés. Donc, il faudrait que je sorte la zakat.
Non, ma'alish. Afallah, salaf, ce qui est passé est passé. Maintenant, vous, voilà. Il faut les porter comme ça. Parce que, de toute façon, vous n'aviez pas l'intention de les revendre pour. C'était vraiment des bijoux de famille. Bijoux de famille.
Voilà, c'est des bijoux de famille que je garde. Voilà.
Alors portez-les un petit peu de temps en temps. Comme ça, on sort des divergences sur la question. D'accord?
D'accord. Et si je ne les portais pas, est-ce que je dois sortir la zakat sur le poids ou sur l'estimation de la valeur?
C'est sur le poids et du prix de l'or au poids. Par exemple, si vous avez par exemple un bijou de 100 grammes, par exemple, sa valeur est de 3600 euros, donc divisé par 2,5%. D'accord. Divisé par 40. Ou divisé par 40.
D'accord. Et est-ce qu'on doit payer la zakat sur un bien immobilier?
Un bien commercial ou un bien que vous habitez?
Non, non. Une résidence secondaire. Un appartement.
Non, il n'y a pas de zakat sur la maison. Non, il n'y a pas.
Ok. Ouais.
Ben, merci beaucoup, Barakallahu
feekoum.
Et haftoukoum.
Merci pour votre appel. Anissa Mehdi est avec nous, 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan Mehdi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, marhaban ya Mehdi.
Imam, wa sharak labas.
Allah ybarak fik akhouya, suren, ahlan wa sahlan. Suren en force. C'est une amie de ma femme qui habite là-bas.
Ah bah alors c'est pour ça.
J'habite à côté moi.
Ah, mais c'est une amie à tout le monde, enfin, Imam Abdel Ali, qu'on salue.
On salue au passage. Nora, elle s'appelle Nora.
D'accord. En fait, j'avais une petite question à vous poser.
Oui, machallah.
Habit Naraf, Malish, Ntkelem Belarbiya.
Marc Babik, mais sauf qu'il faudra traduire après.
Oui, oui.
Vas-y. On fait la VA et la VF. Hein.
Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. En fait, oui, il dit que la Haya Afiddin. Je voulais juste savoir, est-ce que, bah, premièrement, quand on parle pendant le ramadan, quand on parle avec une femme étrangère, on va dire, est-ce que c'est halal ou non? Est-ce que ça va casser le ramadan ou
ah
va...
ouais, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle avec Vanessa et avec.
Alors, non, pas Vanessa.
Alors là, je lui parle pas trop.
Non, mais c'est Maïva.
C'est Maïva.
Elles sont pas coiffées pareil.
C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Non, mais en fait,
deux catégories différentes.
Il n'y avait pas l'intention de, on va dire, des arrière-pensées, ça c'est sûr.
Et le prophète qui parlait avec des femmes dans la mosquée et qui s'adresse à elles et qui lui répondent. Akhoya, il n'y a aucun problème de parler maintenant ces femmes-là. Soit tu as l'intention, tu es dans une démarche de vouloir te marier, donc de faire connaissance avec elles, pouvoir te marier avec elles, même si c'est le ramadan, il n'y a aucun problème. Si maintenant, c'est simplement une connaissance, quoi, ou une amie, ou quelqu'un, une amie de ta femme, ou une amie de la famille, et que tu lui demandes comment ça va, alhamdoulilah, la famille va bien, il n'y a aucun problème. Je vois pas
s'il lui parle sans intention de l'épouser, s'il lui parle juste parce qu'elle lui plaît, sans intention de l'épouser.
C'est ce que je viens de dire.
Mais parce qu'elle lui plaît, c'est pas une connaissance. Elle lui plaît, mais il n'a pas l'intention de l'épouser.
Mais il lui plaît pour faire quoi?
Je ne sais pas, c'est la question que je demande au frère.
Non. S'il lui plaît, c'est parce qu'il a une intention de vouloir se marier avec elle, et il lui plaît pour le mariage, mais pas plaît pour autre chose. Il y a deux plaire. Il y a soit projet, soit aventure. Le projet, oui, aventure, non. Okay. C'est simple.
Bien, la réponse est claire. Merci Mehdi pour votre question. On revient dans un instant.
Une question à poser à l'imam. 01 53 48 3000. Beurre FM. Les grandes signatures du ramadan. Le prophète de Khalil Gibran. By Steve.
Plus qu'un livre, pour moi un chef-d'œuvre, Le prophète de Khalil Gibran, publié en 1923 en anglais, est devenu un immense succès international, traduit dans plus de 40 langues. Le prophète se présente sous une forme poétique de questions et réponses sur les thèmes les plus divers, posés à un sage qui s'apprête à quitter la ville d'Orphalèse où il habitait. Chaque jour, je partage avec vous quelques pages qui vous feront voyager. La joie et la tristesse. Et oui, vous allez comprendre que les deux vont ensemble. Une femme dit alors « Parle-nous de la joie et de la tristesse. » Il répondit « Votre joie est votre tristesse. » Et, c'est-à-dire, la joie, c'est la tristesse sans masque. Là, ça commence. Là, en gros, il te dit « Je suis très très chaud aujourd'hui, accrochez-vous. » Et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Imagine, juste l'image, elle est énorme. Comment serait-il autrement ? Plus profonde est l'entaille découpée en vous par votre tristesse, plus grande est la joie que vous pouvez abriter. Plus tu as souffert, plus quand tu seras content, bah c'est évident, je veux dire, tu seras très content. Voilà. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier flambait dans son four? En gros, la coupe, elle a dû flamber, il l'a tapé, il l'a martelé, il l'a fait fondre. Et après, c'était une coupe, comme toi, comme un padawan, comme un guerrier. Le luth qui console votre esprit, ben, le luth c'est une espèce de guitare de l'époque, n'est-il pas du même bois que celui creusé par les couteaux? Lorsque vous êtes joyeux, sondez votre cœur et vous découvrirez que ce qui vous donne de la joie n'est autre que ce qui causait votre tristesse. Punchline. Là, réécoutez, là je ne peux pas le répéter, c'est trop violent. Je vais m'allonger ici. Rupture de pattern. Lorsque vous êtes triste, examinez de nouveau votre cœur. Vous verrez qu'en vérité, vous pleurez sur ce qui fit vos délices. En gros, comme disait le poète, ce qu'on veut le plus, c'est ce qu'on n'a pas ou ce qu'on a perdu. Certains parmi vous disent « La joie est plus grande que la tristesse. » Et d'autres disent « Non, c'est la tristesse qui est la plus grande. » Moi, je vous dis, bon là, en gros, il arbitre, qu'elles sont inséparables. Et il t'explique que c'est les deux faces d'une même pièce. Elles viennent ensemble, et si l'une est assise avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre est endormie sur votre lit. Donc si t'es heureux, tu vas être triste, si t'es triste, tu vas être heureux. C'est inévitable. Et il ajoute, en vérité, vous êtes suspendu, telle une balance, entre votre tristesse et votre joie. Il vous faut être vide pour rester immobile et en équilibre. Là, c'est champ quantique. Lâche prise. Lorsque le gardien du trésor vous soulève pour peser son or et son argent dans les plateaux, votre joie et votre tristesse s'élèvent ou retombent. Ne comprendront que ceux qui doivent comprendre. Retrouvez-moi sur Instagram by Steve ou sur bysteve.fr.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur beurrefm.net. Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec vous. Beurre FM, 20h-21h, Allo l'Imam, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun.
Je rappelle, Imam Abdelali Mamoun, que c'est à 21h29 que vous faites l'Aden en direct. Pour ceux qui habitent Paris, qu'est-ce que vous avez à vendre, Imam Abdelali?
Non, pas grand-chose. Non.
Pas grand-chose.
Bon. Non, sinon vous appelez demain.
Voilà, vous... j'appellerai à 11h pour ça.
Vous passerez votre annonce.
C'est de 11h à midi, on est d'accord.
Exactement.
Ok.
Ibtissem Belmadani est avec nous, ma sœur kinésithérapeute libérale. Et puis nous avons Maëva qui co-anime notamment Avis de sortie avec nous le dimanche matin entre 9h et 10h. Ibtissem, expliquez-nous pourquoi la première semaine du mois de Ramadan et de jeûne, on a tellement mal aux articulations, aux jambes, aux, un peu partout.
Alors, on est en phase de donc première semaine de jeûne, on est en train de se détoxifier, on a un changement de rythme, un changement d'alimentation, d'hygiène de vie globale. Et en gros, on se déshydrate aussi énormément pour ceux qui n'ont pas pris l'habitude de se lever au suhoor, de bien s'hydrater et surtout de s'hydrater avec une hydratation plutôt salée, minéralisée, pour que l'eau reste toute la journée dans notre corps.
Bien. Alors, il y a les bonnes postures de ce mois. Et des gens qui vont à la mosquée plus que d'habitude, notamment pour les prières du soir. Alors, à quoi faut-il faire attention dans les postures ?
Première des choses, c'est d'être détendu, de respirer profondément, de savoir respirer par le nez, d'être plutôt détendu, parce que du coup, dans la crispation, en fait, on se crée des contractures globales. Notre posture est différente que celle qu'on devrait avoir. Et également, surtout par exemple au niveau des épaules. On a tendance, dans la position de prière, à surélever ses épaules, à être crispé comme ça, sans s'en rendre compte, à pencher trop la tête en avant. Donc ça aussi, il faut faire attention à regarder au sol comme c'est recommandé, n'est-ce pas,
Delali? Au niveau de la prosternation.
Voilà. Mais même dans la position debout, je veux dire, on est censé regarder devant soi. Là, on va se prosterner. Mais en fait, il n'y a pas nécessité de se pencher au niveau du cou, ni au niveau du dos de se recroqueviller. Et donc ça c'est une des premières choses.
Là ça crée des contractures.
Voilà, niveau du haut du dos et après ça part en échelle jusque dans le bas du dos et plus bas encore. Puis après aussi dans la position debout, quand je dis être détendu, c'est aussi parce que cette crispation on peut aussi l'avoir dans le bas du dos en se contractant au niveau des fessiers par exemple, ou bien en crispant au niveau des cuisses. Enfin c'est des choses qui font que finalement on n'est pas à l'aise dans sa prière. Ça joue aussi sur la concentration pendant la prière et ça a un impact sur sa spiritualité.
À quoi il faut faire attention donc dans ces cas-là, Ibtissem?
Justement bien respirer, être détendu dans sa respiration.
Mais ça veut dire quoi, respecter... être détendu dans sa respiration?
Par rapport à la... Je parlais de la respiration naso-nasale. En fait, on a des fois, quand on est trop fatigué ou qu'on ne sait pas tout simplement respirer, on respire par la bouche, ce qui n'est pas la respiration physiologique. Une respiration physiologique, c'est une respiration par le nez, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. Et détendu, c'est la respiration abdominodiaphragmatique, c'est-à-dire par...
Ouh là là, la respiration...
Diaphragmatique.
Abdominodiaphragmatique, ouais, c'est-à-dire par les abdominaux et le diaphragme qui se situe juste... Ouais,
mais quand on a le ventre blindé, qu'on a mangé une harira, 15 bourrecs...
Justement, ça fait partie des recommandations. Il est diaphragme. Ça fait partie des recommandations.
L'estomac, il monte jusqu'au cœur.
De l'importance, lorsqu'on mange, de laisser cet espace à l'air, quand on dit qu'il faut laisser un espace, un tiers pour l'air, en fait, c'est cet espace justement pour que le diaphragme puisse faire la soupape quand on inspire et qu'on expire. Sinon, mais la respiration n'est pas détendue.
Vu que cette réalité-là n'existe nulle part.
Alors, s'il y a des gens qui
gagnent. Il laisse un tiers pour l'air.
Un tiers pour l'air, un tiers pour la nourriture.
Bravo, Philippe, bravo, c'est toi. Alors là, je te félicite.
Attends, écoutez.
Ah, moi, je laisse rien. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air.
Je vous rappelle que c'est la première leçon que le naturopathe qui était là, Monsieur Kelsey, je ne sais pas si vous vous souvenez, la première leçon qu'il nous a donnée.
Eh ben c'est le hadith du prophète qui le.
Moi je laisse un tiers, mais c'est pour maigrir, j'avoue. C'est pas pour l'air.
Non, mais c'est bien, c'est en même temps pour l'air, effectivement. Le prophète, à l'essence là, quand il dit une canne à la boud, un fasoul souli ta'ami, un tiers pour la nourriture, fasoul souli charabi, pour sa boisson, un tiers, et souloutoun lil hawa, pour l'air, justement, pour laisser la possibilité donc, au corps de pouvoir continuer à avoir un fonctionnement normal.
Ouais. Alors, donc,
ce qui veut dire qu'il ne faut pas trop manger avant la prière, c'est ça que ça veut dire.
Il faut manger beaucoup après.
Pas forcément, non.
Ah non plus, on ne mange jamais beaucoup.
Mais à quel moment
alors
on mange beaucoup là
cette histoire de tiers, en fait, elle doit...
Tout ce que j'ai acheté à midi au resto, je veux dire au magasin, qui c'est qui va le bouffer, tout ça.
Cette histoire de tiers est toujours valable, que ce soit au moment de la prière ou en dehors. Elle est toujours valable finalement. Donc il doit toujours avoir cet espace pour que justement cette respiration soit détendue.
Même en dehors du Ramadan, même en dehors
du mois de la consommation, un tiers de nourriture consommée par jour pour que ce tiers-là soit redistribué aux pauvres. Inch'Allah, c'est ça l'importance.
C'est vrai.
Et non pas qu'on mange un tiers de plus là, carrément au lieu d'avoir si on regarde par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger dans l'année. En dehors du Ramadan, eh bien, le Ramadan, au lieu d'avoir une diminution de 30%, on a une augmentation du 30%.
C'est clair, on rajoute calbelouze, briques, charba.
C'est clair. On rattrape tout. Hein. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, on faisait tous les repas...
En un.
C'est-à-dire qu'on commençait petit déjeuner avec café au lait, croissant, beurre, tout ça. Ensuite, on entamait... Un plat de chance équivalent du déjeuner, et ensuite la soupe, la harira, etc. Ouais,
moi, ce qui m'a beaucoup agacé en tant que convertie, quand je suis arrivée dans une famille musulmane de naissance, c'était toutes ces coutumes qui n'avaient rien à voir avec le Ramadan pour moi. Sûr. Donc, genre, ouais, non, faut manger de la break, faut manger de la harira, mais c'est pas faux. Il y a une sunna comme quoi on rompt avec une date, mais le reste, harira, elle n'a rien à faire dans la religion.
De la
boue a
dit qu'il faut la prendre en fin de nuit. Oui. Et non pas au début de la nuit.
La soupe riche.
Mais
on peut prendre un bouillon.
Voilà, on peut prendre un bouillon de carotte. Il y en a qui bloquent sur des plats. Alors c'est
parce
le mois du kelbelouz, c'est le mois culturel.
Parce que la harira est un sucre lent et qu'il est meilleur pour résister la journée, tenir la journée.
Et qu'elle contient des minéraux également.
Donc il y a une raison quand même.
Alors pour revenir à la détente, donc on parlait de la respiration abdominodiaphragmatique. Donc c'est celle qui permet au diaphragme de faire soupape. Quand on inspire, le diaphragme descend pour laisser l'air rentrer dans les poumons. Et quand on expire, le diaphragme remonte pour expulser l'air comme un ballon qu'on écrase. Voilà. Donc cette respiration-là est très importante. S'hydrater correctement est très important également. On peut prévenir aussi les contractures, les tassements et les douleurs en s'assouplissant. Donc en faisant des étirements le matin au réveil, de prendre le temps de bien s'étirer. Parce que la souplesse est un capital santé et que, donc il est très très important d'être souple autant physiquement que dans son état émotionnel, dans la réception de ce qu'on reçoit dans la journée comme difficulté, épreuve de la journée. Voilà. Donc,
vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire, Emma?
Je suis en train de faire des étirements.
C'est du yoga, j'ai rien.
Mais là, j'ai oublié de faire ce matin. Vaut mieux tard que jamais.
C'était tellement beau.
Alors, moi, ça m'intéresse, c'est l'histoire de la souplesse. C'est un capital santé parce qu'il y a des gens qui sont quand même très raides.
Ils bougent pas beaucoup.
Et notamment par rapport à la spiritualité, si on peut en revenir, ça y joue parce que ne serait-ce que pour descendre en prosternation lorsqu'on est debout, c'est quand même impactant de ne pas être souple au niveau des jambes, au niveau du dos. On n'est pas dans l'aisance. Pareil pour descendre en prosternation au sol, si on n'est pas souple au niveau de la prosternation, c'est aussi délicat. Donc, la prière permet d'obtenir cette souplesse, mais au-delà de ça, si on veut améliorer la gestuelle de la prière, la souplesse a un effet très positif.
Alors moi, j'ai une question. Comment faire pour tenir debout longtemps? Est-ce que vous avez des astuces?
Oui.
Parce qu'effectivement, rester pendant une heure en posture debout, bien sûr, il y a la concentration, il y a le khushu, à faire salat, effectivement, qui aide à rester debout. Mais est-ce qu'il y a aussi, peut-être, du côté kinésithérapie, pique, on dit comme ça.
Qu'ils étaient apeutiques.
Petites, voilà. des astuces, des tuyaux.
Alors, oui, il y a des astuces, en fait. Tout simplement, déjà, de travailler ses muscles profonds. On a des muscles profonds et des muscles superficiels dans tout notre corps. Et les couches profondes musculaires, en fait, nous permettent de tenir longtemps debout. C'est ce qu'on appelle les muscles du tonus postural.
Ils sont à l'intérieur.
Voilà, ils sont plus près des os et des articulations. Et donc, lorsque ces muscles sont toniques, eh ben, ils nous permettent de tenir debout sans difficulté. Alors, quand ils sont faibles, eh ben, en fait, on est vraiment dans un écrasement articulaire. Et là, on sent les douleurs, l'arthrose, qu'on appelle l'arthrose, les rhumatismes dans le langage courant. Parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment de tuteurs musculaires qui nous maintiennent correctement.
Alors, moi, je peux ajouter un élément religieux à cette question. C'est qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on est obligé de faire le tarawih en position debout? Ben, la réponse est non. C'est une prière surérogatoire, donc elle peut se faire assise, même si on a les moyens de rester debout. Mais par contre, sachez que si on a les moyens de rester debout et qu'on est assis, on aura seulement la moitié de la récompense que si on est debout. Maintenant, si on n'a pas les moyens de rester debout, parce que voilà, la douleur est trop intense, on n'arrive pas à supporter et rester debout, eh bien là, on s'assoit et on aura la même récompense que si on est debout. Un jour, Zainab, la fille du prophète, avait tendu une corde entre deux poteaux de la mosquée. Et elle l'utilisait pour s'appuyer dessus, hein, pendant la prière, pour rester debout. Elle utilisait cette corde qui était tendue entre deux poteaux pour rester debout dans la prière. Et le prophète a dit, mais qui a mis cette corde comme ça là? On lui a dit, mais c'est ta fille qui a fait ça. Il a dit, حلوها, hein, وليصلي أحدكم نشاطا. Hein, il dit, enlevez cette corde et que chacun d'entre vous ne prie debout que ce qu'il est capable de faire. Et que dès qu'il est fatigué, il s'assoit. Même pour la prière obligatoire, si tu ne peux pas rester debout, la faire assis. À partir du moment où c'est plus possible de rester debout, puisque le Coran est clair, il dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à quiconque que ce qu'il est capable de faire. À partir du moment où tu n'es plus capable de rester debout, tu t'assois, tu te mets à genoux ou sur une chaise aussi, pourquoi pas. Et après, tu vas t'incliner, tu fais les postures et tu te prosternes avec tout le monde. Mais si tu es fatigué, tu mets une chaise derrière toi, tu te reposes et tu te relèves quand tu te sens bien.
Alors, Ibtissem, très rapidement.
On parlait de l'importance d'avoir un bon tonus postural, donc de bons muscles profonds. Quelque chose qui permet d'entretenir les muscles, c'est notamment quelque chose de très simple, c'est la marche. La marche quotidienne, 15 à 20 minutes par jour, suffisent pour être gainé, tonique et en même temps s'assouplir.
Seulement 15 minutes, ça va.
Ça paraît pas beaucoup, hein, oui, 15 plus. Minutes. Ouais.
Je fais plus ça.
Tu dis 10 000 pas, mais bon, voilà.
Et pour être 10 000 détendu.
Pas, c'est combien ça?
Ça fait un peu plus que ça, hein, oui, 10 000 pas.
Moins une heure.
Oui, facilement. Ouais.
Pour être détendu, on peut travailler sa respiration de soi-même, donc notamment par la cohérence cardiaque, par la relaxation, l'hypnose. Il y a plein de techniques qui permettent d'apprendre à se détendre.
L'ostéopathie, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, l'ostéopathie est très intéressante quand on a des blocages articulaires, squelettiques. Seulement, si on ne traite pas la cause derrière et qu'on ne traite pas les mauvaises habitudes quotidiennes qu'on a, le problème va réapparaître et donc on reprend une séance alors qu'en
ça
fait
ça vous débloque sur le coup.
Ouais. Voilà, le mieux est de comprendre d'où vient le problème pour se corriger soi-même.
Voilà, allô l'imam jusqu'à 21h29 ce soir.
Une question à poser à l'imam 01 53 48 3000.